When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Nous sommes au XVIIe siècle. En Chine, la dynastie Ming règne sur le pays depuis plus de 200 ans. Un nom célèbre qui a traversé les siècles et les frontières. Ming, un mot qui veut dire lumière. Et c'est une période effectivement brillante. Sous cette dynastie, la population double, de 80 à 160 millions d'habitants. La cité interdite est construite au cœur de Pékin, la nouvelle capitale impériale. L'éducation, la philosophie, l'art, la littérature, tous ces domaines progressent entre 1368 et 1644. C'est aussi l'époque où les Occidentaux vont découvrir la Chine, l'époque où l'Empire du Milieu va conquérir les mers, lancer ses navires sur les mers du Sud, en passant par Java, Malacca, Colombo et Hormuz. Mais au XVIIe siècle, la dynastie des Ming est fragilisée. Elle est menacée, appauvrie. Au XVIIe siècle, le climat se refroidit en Chine, les sécheresses, les inondations se multiplient et des famines déciment certaines régions. Des événements climatiques qui vont jouer un rôle important lorsqu'au XVIIe siècle, finalement, les Ming finiront par perdre pied. Je suis Pauline Jacquot, vous écoutez Les Grandes Histoires de l'Écho, et nous partons ensemble découvrir comment le climat a changé le cours de l'histoire. Épisode 3, les Ming, la plus grande dynastie chinoise aux prises avec les aléas climatiques. Non loin de Shanghai, en 1640, dans la région la plus prospère de la Chine, le Jiangnan, le vent a l'air de tourner. Le climat, très froid et sec de la dernière décennie, a donné de mauvaises récoltes. Le centre de gravité économique du pays commence à montrer des signes d'essoufflement. Le système d'irrigation agricole fonctionne moins bien. Il n'y a pas assez d'investissements. Les infrastructures se dégradent. Le prix des denrées agricoles ne cesse de grimper. Et la tension sociale est à son comble. Dans la ville de Suzhou, les paysans sont affamés. Certains escaladent les murs des belles propriétés et démolissent les portails à coups de hache. De riches Chinois sont assassinés. L'armée doit intervenir pour mettre un terme à ces violences. Mais en 1641, de terribles sécheresses jettent sur les routes des milliers de Chinois. Le long des chemins, les gens meurent de faim. Dans la ville voisine de Songjiang, les habitants tentent de se nourrir de l'écorce des arbres. Des enfants sont abandonnés et le préfet met bien en place quelques soupes populaires. Mais la situation est trop dramatique. À cette époque, et dans cette région chinoise, longtemps symbole de richesse, la mort est omniprésente.
Là, on arrive à une situation véritablement de famine. Ces descriptions des morts qui jonchent les campagnes ou qui s'entassent dans les fossés, des troupes d'enfants qui errent à l'abandon, et même à la limite, et ça c'est toujours le pic dans les descriptions, l'anthropophagie, le cannibalisme. Et ça, c'est une chose sur quoi il faut insister. Ce qui semblait aux habitants de cette région dont j'ai parlé, impensable. Pour eux, c'était des horreurs qui se passaient dans le Nord, mais que ça puisse arriver dans une région aussi prospère, ça semblait totalement absurde.
Pierre-Étienne Ville est historien de la Chine.
Certains phénomènes, aussi également pratiquement inconnus, en tout cas très inattendus, se sont produits dans la région, et en particulier les invasions de sauterelles. Et là encore, on a certains auteurs qui racontent comment ils n'arrivaient pas à se défaire eux-mêmes en marchant sur une route. Ils étaient complètement couverts de sauterelles. Ou un autre auteur qui décrit comment il a vu ces nuées de sauterelles franchissant le Yangtze pendant plusieurs jours, d'affilée, cachant le soleil. Donc vous imaginez un peu le genre d'impression que ça devait faire sur des gens qui n'avaient jamais vu ça. Ils disaient, ah ben dans notre région, personne ne sait ce que c'est qu'une sauterelle.
Des sauterelles, les invasions de ces insectes totalement inconnus dans ces régions ravagent certaines récoltes. Les dégâts sont localisés, mais ils sont considérables. Les sécheresses, à partir de l'année 1641, ont certainement joué un rôle dans le cycle d'apparition de ces nuées destructrices de sauterelles, selon les spécialistes. Au milieu du XVIIe siècle, le ciel des Ming s'assombrit, les difficultés s'amoncellent, la fin de la dynastie est alors toute proche.
Les Ming, ça commence en 1368, ça se termine en 1644, donc ça se termine quand Louis XIV est tout jeune enfant. Les Ming, c'est une dynastie très importante dans la psyché chinoise, parce que c'est la dernière dynastie vraiment chinoise. Avant les Ming, ce sont les Mongols. Après les Ming, ce sont les Mandchous qui sont au pouvoir, et après, c'est la République.
Gabriel Grésillon est journaliste aux Échos et ancien correspondant en Chine.
C'est une espèce d'âge d'or, c'est une dynastie qui a été fondée sur une volonté de redévelopper l'agriculture, mais ensuite, elle va aussi prospérer au plan économique. Les choses qui marquent l'esprit des Chinois sur les Ming, c'est aussi l'époque de Zheng He. Zheng He, c'est le grand navigateur qui est allé explorer jusqu'aux côtes de l'Afrique. Et puis après ça, la Chine s'est refermée. C'est peut-être plus anecdotique, mais c'est aussi le moment où la fameuse caste des eunuques prospère, se développe jusqu'à l'excès autour de l'empereur, quitte à prendre un pouvoir disproportionné. Et dans les phénomènes qui peuvent expliquer le délitement des Ming à la fin, il y a notamment cette puissance excessive de cette caste.
Au commencement de ce règne de 276 ans, il y a un homme, Zhu Yuanzhang, un ancien paysan, qui a connu la faim. On dit qu'il fut berger, gardien de buffle, toute une légende entoure le personnage qui fut ensuite instruit par des moines bouddhistes. En 1368, celui qui allait gouverner sous le nom de Hongwu domine tous ses rivaux, puis se proclame le fils du ciel. L'ère des Ming vient alors de commencer. À Nankin, il installe son empire. Hongwu, le nouvel autocrate, est féroce. Son objectif est avant tout militaire. Il doit maîtriser le territoire, contrôler les frontières, remettre en état un pays ruiné par les guerres et l'exploitation des Mongols, ces peuples nomades des steppes du Nord qui ne vont jamais cesser de menacer la Chine. Hongwu commence par tous les expulser de l'Empire du Milieu. Il entame ensuite un gigantesque travail de reconstruction économique. Reboisement, irrigation, valorisation des terres agricoles, l'empereur décide aussi d'établir un premier cadastre pour recenser les terres du pays. Le début du règne des Ming est marqué par un développement démographique et économique très fort. En 1405, débutent les grandes expéditions maritimes de Zheng He. Des expéditions qui n'ont rien de commercial, mais qui sont plutôt des voyages diplomatiques. Des voyages pour conduire des personnalités étrangères au palais impérial ou pour rapporter toutes sortes de curiosités au pays. Un jour, Zheng He et sa formidable flotte, entre 40 et 60 navires, des bateaux transportant quelquefois jusqu'à 27 000 hommes, offrent à l'empereur une girafe, un animal censé porter chance, sans doute confondu à l'époque avec la licorne qui entoure le mythe de la naissance de Confucius. Dans le domaine maritime, la Chine du XVe siècle est sans conteste bien loin devant l'Occident. Les expéditions de Zheng He parviennent à s'approcher des côtes africaines. Il y en aura 7 et passeront par Java, Malacca, Colombo, Calicut, Hormuz. Mais elles s'arrêteront brusquement en 1433. Ces aventures sur les mers coûtaient cher et elles s'opposaient en tout point à la philosophie des fonctionnaires confucéens, ces lettrés qui s'opposaient au commerce et à toutes sortes de relations avec l'étranger. Elles étaient par ailleurs organisées par les eunuques, cette caste toute puissante sous la dynastie des Ming, haïe des confucéens. Hongwu, Chengzu, deux empereurs du début du règne des Ming qui symbolisent la restauration nationale, le redressement de l'économie, mais qui sont aussi coincés dans cette volonté de pouvoir central, cet interdit de ne pas pouvoir lever d'impôts. Hongwu a supprimé l'administration civile, les Ming doivent gouverner seuls avec leur cercle proche, ils sont noyés sous les demandes, les documents. Ils font alors appel à cette caste chinoise, les eunuques, qui vont progressivement prendre un pouvoir considérable. Ils seront jusqu'à 70 000 abrités par la cour impériale. Dans les années 1500, le système social et fiscal commence à s'effriter. Lentement, l'Empire doit affronter des révoltes, les comptes se creusent. C'est au même moment, au milieu du XVIe siècle, qu'une vague de froid déferle sur l'Empire. Le climat est anormalement froid. Les phénomènes climatiques extrêmes s'enchaînent. Face aux difficultés de l'Empire, la collecte de l'impôt devient de plus en plus capitale. Les provinces, qui doivent envoyer un tribut en grains à Pékin, réclament des allègements au pouvoir qui reste totalement sourd aux demandes de son peuple.
Au moment où les calamités se sont multipliées, où il y a eu des famines, etc., l'État ne voulait pas entendre parler de diminuer le tribut, d'accorder des remises, des exemptions, etc. Et là encore, c'est dans des sources comme celles auxquelles je me suis intéressé, qui sont des sources privées et d'un ton très libre, d'une grande liberté d'expression ou de critique aussi, c'est là qu'on voit que la perception du tribut qui était confiée à l'armée était d'une incroyable brutalité. Et il n'y avait pas à discuter, et si les gens ne payaient pas, la troupe débarquait chez eux, enfin c'était absolument détesté.
Les paysans s'enfuient alors des campagnes, ils sont chassés par la misère, s'échappent vers les montagnes, là où les fonctionnaires et le tribut, les impôts, n'iront pas les rattraper. Les paysans s'organisent, des contrebandes, des pirateries, ils forment des sociétés secrètes et religieuses. À partir du XVIe siècle, les rentrées fiscales de l'Empire baissent et le rendement de l'impôt chute.
Dans la philosophie politique, ou plutôt dans l'économie politique traditionnelle chinoise, les impôts devaient être très bas et ne pas augmenter. Autrement dit, l'inventivité fiscale, au moins dans le discours, était quelque chose de tout à fait condamnable. Il fallait en prendre le moins possible et même les taxes commerciales étaient finalement relativement légères et très peu appliquées. Et alors le rendement de ce système relativement minimal, dont la base était l'impôt foncier, a effectivement diminué tendanciellement à partir du XVIe siècle en particulier. L'enregistrement des terres et des populations est devenu beaucoup moins efficace qu'il l'avait été dans les premières décennies de la dynastie. On n'a plus de chiffres vraiment fiables de la population et les cadastres correspondaient de moins en moins à la réalité parce qu'ils n'enregistraient pas les changements et en particulier la concentration foncière. L'impôt rentrait de plus en plus mal parce que, en fait, les propriétaires qui auraient dû payer leur impôt foncier et les suppléments de corvée s'inscrivaient sous le nom de gens qui étaient exempté plus ou moins long terme. Alors, c'est quand même un phénomène majeur que les Qing, alors tout de suite après la conquête, ont essayé même assez brutalement de corriger pour rétablir le rendement fiscal de ces régions qui étaient particulièrement productives.
Dans le nord de la Chine, à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe, la température moyenne aurait baissé d'un peu plus d'un degré. Entre 1627 et 1643, Le climat devient plus sec. C'est à ce moment-là que la Chine connaît l'une de ses pires sécheresses, la plus intense de son histoire depuis l'an 500. Les conditions climatiques de plus en plus rudes entraînent encore des famines. Les quantités de céréales produites ne cessent de chuter et ne suffisent plus pour nourrir l'armée, les soldats, ces troupes militaires tellement importantes aux yeux des Ming pour tenir les frontières et résister aux invasions. La majorité du budget est consacrée aux efforts militaires. Il n'y a pas assez d'argent pour le Grand Canal, sa maintenance, un lien fluvial essentiel entre les riches provinces du Sud et les cercles du pouvoir politique et stratégique du Nord. Les soldats ne sont pas payés régulièrement. Ils reçoivent des primes occasionnelles. Et plus le temps passe, plus les rangs de l'armée se vident. La sécheresse, au début du XVIIe siècle, à l'origine aussi d'un mouvement de rébellion, de vastes révoltes motivées par la faim, la misère, une incompréhension d'un pouvoir aussi qui ne peut pas aider son peuple face aux catastrophes naturelles et qui préfère couper drastiquement dans certains budgets.
Au début du règne du dernier empereur Ming, donc en 1628 pour être précis, il y a eu une grave sécheresse et une grave famine dans la région du Shanxi, c'est-à-dire la province dont Xi'an est la capitale, donc une ville bien connue des touristes, et vieille ville impériale à l'époque médiévale et ancienne. Et donc, dans cette région, il y a eu une vraie crise, et dont un des effets a été de jeter sur les routes un certain nombre de gens qui ne savaient plus où se tourner, et en particulier des agents de la poste. Et la poste, je veux dire des relais postaux, qui étaient une administration militaire, qui se sont retrouvés sans emploi, puisqu'on a voulu faire des économies sur la poste, vous voyez, c'est de tous les temps. Mais là, je parle vraiment d'un système de transmission étatique et militaire. Et donc, ce sont des petits employés de ce système postal qui se sont révoltés et qui ont réussi en un ou deux ans à occuper une bonne partie de la province. Et cela était en particulier originaire ou en service dans des régions proches de la Grande Muraille où il y avait une forte présence militaire, ou en principe, c'est-à-dire plus au nord, dans la région en fait où les communistes se sont réfugiés entre les années 30 et 40, c'est-à-dire le fameux Yan'an. C'est exactement cette région-là qui est misérable, ça la Chine du lustre très sèche, etc., etc. Et donc ces gens-là se sont transformés en fait en troupes de bandits avec toute une mythologie en partie inspirée du roman des Bourdelots et vivaient de brigandage essentiellement. Et à partir de 1630 environ, ils ont commencé à rayonner dans le reste de la Chine et c'est ça l'origine des fameuses grandes rébellions qui ont en partie paralysé le gouvernement et les armées de la Chine pendant les 15 dernières années de la dynastie, c'est-à-dire au moment même où les Mandchous étaient de plus en plus menaçants, efficaces. Les Mandchous ont fait des incursions très profondément en Chine, bien avant la conquête. Autrement dit, le régime des Ming se trouvait pris entre deux feux, entre cette menace extérieure et cette menace intérieure. Et comme je viens de vous le dire, cette menace intérieure est née et ensuite s'est alimentée de ces calamités naturelles et donc du fait qu'il y avait des gens qui étaient prêts à partir comme desperados et qui n'avaient plus de moyens. Il ne faut pas non plus généraliser ou exagérer, mais ça a été certainement un facteur du fait qu'un certain nombre de chefs de bandits ont sillonné toute la moitié nord de la Chine, jusqu'au Roubaix en fait, et ensuite jusqu'au Sichuan, donc dans le sud-ouest, en faisant énormément de dégâts.
Le climat, les températures semblent se dérégler, les catastrophes naturelles se déchaîner. Des symboles lourds de conséquences dans un pays qui ne jure que par le ciel.
Il faut avoir conscience qu'il y a quelque chose qu'on appelle en Chine le mandat céleste. L'empereur, il tient son pouvoir du ciel. Donc, ce n'est pas un pouvoir arbitraire, c'est un pouvoir qui a une forme de légitimité. Et il faut toujours avoir l'accord du ciel. Et cet accord, il n'est pas définitif, il peut être retiré. Et donc, il faut être attentif aux signes. Est-ce que le vent est en train de tourner? Est-ce qu'il y a des choses qui, dans l'air du temps, peuvent donner à penser que le mandat céleste est en train d'être retiré à l'empereur? Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce délitement de la fin des Ming, il y a évidemment des phénomènes objectifs. On n'a plus assez à manger, les rentrées fiscales diminuent, les guerres augmentent, les cataclysmes, les sauterelles, etc., etc. Mais il y a toute la dimension symbolique qu'il y a derrière. C'est-à-dire, dans l'esprit des Chinois, ce qui est en train de se passer suscite immédiatement une question. Et la question, c'est est-ce que le mandat céleste est en train d'être retiré à cet empereur et à cette dynastie ?
C'est effectivement le début de la fin. Certains auteurs à l'époque, souligne Pierre-Étienne Ville, commencent à sentir qu'il va y avoir un véritable cataclysme. Le couperet tombera en 1644. Le rebelle Li Zhechang entre dans Pékin. Il sera très vite balayé par les Mandchous, des cousins des Mongols, qui s'installent au pouvoir et envahissent le palais impérial, la cité interdite. Le dernier empereur de la dynastie des Ming se donne la mort au moment où les barbares envahissent la capitale. La Chine sera mandchoue pendant près de 3 siècles, de 1644 à 1911, lorsque sera proclamé le nouveau régime chinois, la République.
Quand on analyse la Chine contemporaine, on rentre dans un territoire qui est beaucoup plus délicat politiquement, mais il y a évidemment énormément de gens qui disent que les communistes sont tout simplement la nouvelle dynastie chinoise, qu'il y a dans ce qui se passe aujourd'hui en Chine des vrais parallélismes avec le pouvoir impérial. Et donc, la question qu'on se pose constamment quand on est un Chinois, c'est le pouvoir a-t-il toujours le mandat céleste ou est-il en train de le perdre ? Donc, quand on fait, par exemple, quand on dit que le pouvoir chinois a besoin de croissance économique pour légitimer son pouvoir, quand la croissance ralentit, est-ce que c'est le mandat céleste qui est en train, peu à peu, d'être retiré ? Quand il y a une pandémie qui s'abat et que le pays est à genoux et à l'arrêt, est-ce que c'est un signe du mandat céleste ? Il y a constamment cette interrogation dans l'esprit chinois. Et peut-être quelque chose qu'il faut rajouter, c'est qu'on comprend mieux aussi pourquoi il y a une forme de réflexe, de puissance et de fermeté du pouvoir. C'est qu'en fait, dans l'histoire de la Chine, les moments où les régimes se sont effondrés, c'est des moments où le pouvoir perdait pied, en fait, perdait le contrôle. Et on le voit très bien dans la fin des Ming. On a un pouvoir qui n'arrive plus à contrôler la situation. Et en fait, le mandat céleste, il est ferme quand le pouvoir est ferme. Donc, le réflexe d'un pouvoir chinois traditionnel, c'est de serrer la vis pour faire la démonstration du fait qu'il a le contrôle de la situation.
Une décadence du pouvoir Ming dans laquelle le climat a joué sa partition. Des événements, des aléas qui ont finalement abouti à la chute de l'une des plus brillantes dynasties chinoises. Merci à Gabriel Grésillon, journaliste aux Échos. Merci à Pierre-Étienne Ville, historien de la Chine. Vous venez d'écouter les grandes histoires de l'Écho, troisième et dernier épisode de notre série « Quand le climat change l'histoire ». Les Ming, la plus grande dynastie chinoise aux prises avec les aléas climatiques, réalisée par Willy Gann. Pour écouter les épisodes déjà en ligne et ceux qui vont bientôt l'être, abonnez-vous sur vos plateformes préférées, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music ou encore Google Podcasts. À bientôt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.